La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour pour cette nouvelle émission de la Semaine de l'Art avec Charles Villeneuve de Gentil qui est directeur des musées de Nancy. Bonjour Charles.
Bonjour Didier.
Donc vous êtes arrivé à Nancy il y a 4 ans maintenant comme directeur du musée des Beaux-Arts. J'aimerais que vous nous disiez quel était votre parcours avant d'arriver à Nancy et ensuite quel est votre parcours depuis que vous êtes arrivé à Nancy puisque vous êtes devenu il y a un an le directeur des musées de Nancy. Donc expliquez-nous un petit peu comment ce parcours s'est déroulé et comment vous êtes passé de directeur du musée des Beaux-Arts à directeur des musées.
Donc après des études à l'école du Louvre puis à l'Institut National du Patrimoine, j'ai été nommé au Petit Palais à la tête de la collection de peintures anciennes. Et puis à la suite, au bout de 6 mois, il a fallu que je fusionne le cabinet d'art graphique de dessin et celui de gravure pour créer un cabinet d'art graphique moderne. Je suis ensuite resté au Petit Palais jusqu'en 2013, où j'avais assisté notamment à la mise en place de Nancy Musée, la création de la direction des musées de la ville. Et puis j'avais aussi envie
Paris
de...
Paris Musée, vous voulez dire,
Nancy Musée. Paris Musée, pardon. Voilà un lapsus.
Lapsus révélateur.
Et puis j'avais aussi envie de prendre une direction de musée parce que c'est, je pense, c'est une étape dans une carrière de conservateur qui peut être intéressante, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut permettre de découvrir de nouveaux champs. Et j'avais eu un coup de cœur quelques années auparavant pour le musée des Beaux-Arts de Nancy, que j'avais découvert à l'occasion d'un convoiement pour l'exposition Beauté Monstre, où le Petit Palais prêtait une sculpture de Cariès. Et j'avais eu un vrai coup de foudre pour ce musée, à la fois ses collections, son architecture et puis aussi l'environnement qui est vraiment magique, celui de la place Stanislas. Et c'est pour ça que quand le poste a été ouvert, j'ai lancé une bouteille à la mer, mais sans vraiment me projeter sur le poste. Et puis j'ai eu la joie de rejoindre les équipes du musée des Beaux-Arts de Nancy en 2013. Et assez vite après mon arrivée, la ville a souhaité réfléchir à la création d'une direction des musées de Nancy. Et donc, après un appel à candidature, j'ai été retenu pour préparer d'abord la phase de préfiguration et puis ensuite la mise en œuvre de cette direction des musées, qui est maintenant opérationnelle depuis juste quelques mois, puisqu'elle a démarré au 1er janvier 2017.
Alors, les musées de Nancy, on connaît le musée des Beaux-Arts, tout le monde connaît également le musée Lorrain, mais peut-être pouvez-vous nous faire le panorama global de ces musées et de leurs collections ?
Alors, le musée des Beaux-Arts de Nancy, donc effectivement, sans doute le plus connu, c'est le plus ancien. Il date de 1793 et il a des collections typiques d'un musée de Beaux-Arts, c'est-à-dire relativement encyclopédiques. Le musée Lorrain, donc on en parlera sans doute plus en détail, mais est lui un musée d'histoire régionale. Et il a été créé en 1850 et installé dans le palais ducal, donc le palais des ducs de Lorraine. Et il regroupe des collections très diverses d'art, d'histoire et aussi d'art et tradition populaire. Donc c'est un musée particulièrement intéressant. On a aussi la chance d'avoir à Nancy un mouvement qui est né, le mouvement de l'école de Nancy, qui a lui aussi son musée grâce à la donation de Victor Poirel, qui a donné sa maison et puis c'est Victor Corbin, pardon, qui a donné sa maison et ses collections, auquel la ville a ajouté la Villa Majorelle, qui est la maison de la famille Majorelle. Ensuite est venue s'ajouter à cette direction des musées la Galerie Poirel, qui est un ensemble qui comprend une salle de spectacle, une salle de concert symphonique autour de laquelle se développe 1000 m² de galeries d'exposition, qui est un espace qui est dédié plus spécifiquement à l'art contemporain et au design. Et puis, tout récemment, la ville a acquis la maison de Jean Prouvé, la maison familiale de Jean Prouvé, et en a confié la gestion en 2012 au musée des Beaux-Arts.
Alors, on va parler de ces différents musées, sans vouloir d'ailleurs, vous le souhaitiez, vous ne vouliez pas empiéter sur... vos confrères qui sont les directeurs de chacun de ces musées, pour lesquels ils ont... Alors vous allez nous expliquer comment ça se passe de prendre la direction des musées de la ville quand on est directeur du musée des Beaux-Arts. Chaque musée a donc un directeur et donc doit travailler, peut travailler, je pense, avec une relative autonomie. Donc vous nous expliquerez comment ça fonctionne, comment on met cela en place. Et ensuite on regardera point par point, de manière un peu plus globale, certains dossiers comme par exemple, mais on pourra recevoir ici à ce même micro Richard Dagorn, le directeur du musée Lorrain, pour parler du projet actuel pour lequel, vous savez, enfin il y a eu quelques, au départ, la Tribune de l'Art particulièrement et d'autres, et des associations étaient assez opposées au projet tel qu'il était. Le projet était amendé de manière peut-être pas idéal, mais au moins il y a un compromis qui a été trouvé et qui permet en tout cas de laisser l'avenir libre. Et c'est d'ailleurs à l'honneur du maire de la ville qui a su revenir sur un dossier qui avait été normalement tranché. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment s'articulent ces musées, quel est l'intérêt d'avoir une direction des musées par rapport à avoir plusieurs musées différents, et ensuite on reviendra sur chacun d'entre eux.
Alors l'intérêt de créer une direction des musées, on peut en voir plusieurs, hein. Je pense que pour certains, ça va être un intérêt économique, parce qu'on mutualise des moyens, donc on peut aussi mieux utiliser les ressources. Et c'est vrai qu'en ce moment, elles sont particulièrement rares, donc il faut les utiliser au mieux, surtout quand on parle d'argent public. Et puis, il y a d'autres intérêts qui peuvent être des intérêts scientifiques, parce que quand on met en commun des ressources, on parle aussi de ressources documentaires et aussi d'équipes de conservation. Donc ça permet aussi de travailler plus en synergie. On réfléchit notamment à la création d'une photothèque commune, à la création, pourquoi pas, d'une bibliothèque commune, des musées. Et pour un chercheur, plus la masse d'informations est importante, plus les recherches peuvent être poussées. Donc ça, c'est... Voilà, il y a plein d'intérêts. Il y a aussi, je pense, à une époque où on a assisté à une sorte de déconstruction d'un réseau qui était celui des musées classés et contrôlés, qui est maintenant bien achevé, et puis la décentralisation est vraiment mûre. On a besoin, paradoxalement, de recréer des réseaux. Ces réseaux, ils se créent en fonction de la densité des musées. J'entends par là qu'il y a des grands musées, il y a des petits musées, et pour les petits musées, c'est difficile de vivre. Et donc, on a intérêt à se regrouper pour retrouver du poids. La création, par exemple, de la direction des musées de Nancy nous a permis d'entrer dans le frame, ce réseau franco-américain. Et c'est vrai que si on compare le musée de l'école de Nancy, par exemple, au musée de Montréal, par exemple, le musée des Beaux-Arts de Montréal, on a vraiment des échelles complètement différentes. Et donc, c'est cette mutualisation qui permet de mettre en place ces réseaux. Voilà. Pareil pour d'autres... depuis que je suis arrivé à Nancy, j'ai essayé de mettre en place un maximum de relations avec d'autres musées plus gros que nous. J'avais commencé à m'en arriver avec le Petit Palais, alors c'était le plus logique pour moi, mais avec une exposition des tapisseries du Petit Palais, ça permettait de montrer ces collections qu'on voit peu à Paris pour des histoires de place et de conservation, et en même temps ça permettait de faire une exposition à Nancy avec un budget très, très raisonnable. On a fait la même chose avec l'exposition des autoportraits du musée d'Orsay, etc. Et on voit bien qu'en fait on a besoin, nous, de s'adosser, de recréer des réseaux. Alors, dont les têtes de pont ne se trouvent pas forcément dans les DRAC ou au ministère de la Culture, mais directement auprès de grands établissements publics qui jouent un petit peu ce rôle qu'ils avaient au XIXe siècle. Hein. Par exemple, on prend le Louvre, il aurait tout à fait... il peut même avoir encore maintenant, quand on fait des acquisitions, on demande un avis, ce qu'on appelle les grands départements. Donc, ces réseaux sont devenus indispensables et on ne peut les activer que si on a un certain poids.
Alors, comment se répartissent votre rôle par rapport à celui des autres directeurs des musées, Musée de Lorrain, Musée de l'École de Nancy, comment ça se passe? Qui fait quoi?
Alors, qui fait quoi? C'est justement, on aurait pu craindre des relations conflictuelles qui ont existé d'ailleurs par le passé entre les musées d'une ville comme Nancy, mais on voit ça un peu partout, hein, cette compétition entre les musées qui peut être malsaine. On s'est assis tout simplement autour d'une table entre conservateurs et on s'est posé ensemble la question de quel était le cœur de métier d'un conservateur. Ce à quoi il ne fallait vraiment pas toucher pour que le poste garde l'intérêt. Et ce qui est apparu comme le cœur du métier, c'est les collections. Donc cette direction, elle s'organise de la manière suivante. Tout ce qui relève des collections strictes, donc les équipes de documentation, la régie des œuvres, et aussi tous les personnels sont affectés à l'entretien des bâtiments, relève encore aujourd'hui d'un musée. Donc ça, c'est resté dans la fiche de poste des directeurs des musées et l'encadrement des équipes scientifiques de conservation aussi. Par contre, tout ce qui est en dehors de ce champ strict a été mutualisé. Les équipes d'accueil et de surveillance, les équipes qui font les opérations financières, les tâches administratives, tout ceci a été mutualisé. Et on a créé en plus une équipe dédiée aux expositions, de régie, manutention et travaux, mutualisés également. Donc voilà, ce qui relève des collections est resté dans le giron des directeurs. Donc ils ont encore leur politique de restauration, leur politique d'acquisition. Par contre, tout le reste a été aspiré par la direction des musées.
Alors, ce que pour vous, ça ne veut pas dire finalement plus d'administratif et moins de temps passé sur les collections et sur l'histoire de l'art, alors que peut-être pour vos confrères, c'est plus c'est quand même plus simple, finalement, parce qu'ils ont tout ce qui était un petit peu plus lourd à gérer, finalement, ça revient au niveau de la direction des musées.
Oui, alors je leur ai aussi confié des missions transversales, justement pour rétablir un petit, enfin pour un souci d'équité. Richard Dagorn s'occupe justement d'une sorte de direction des collections, donc il a plus en charge les, tout ce qui est lié à la régie. Et ça s'est lié aussi à l'histoire de son poste, hein, qui est très lié à la rénovation du musée Lorrain, qui va nécessiter beaucoup de régie. Et Valérie Thomas s'occupe, elle, de la préfiguration de la mutualisation des ressources documentaires.
Directrice
du musée de l'École de Nancy et de la Villa Majorelle. Et donc elle doit réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en commun toutes nos ressources documentaires, voilà, pour les chercheurs et puis pour nous aussi.
Alors vous me disiez, alors je le sais d'ailleurs puisque l'annonce est parue sur la Tribune de l'Art, vous recherchez votre adjoint, c'est au musée des Beaux-Arts uniquement, pas à la direction des musées.
Oui.
Mais alors vous avez du mal à le trouver parce que ce que vous me disiez, ce qui m'étonne et je n'avais pas bien saisi le problème, c'est qu'on sait qu'il y a de plus en plus de conservateurs d'ailleurs qui partent à la retraite, il y a de plus en plus de musées qui se retrouvent sans conservateurs. Et finalement, eh bien, il n'y a pas suffisamment de conservateurs formés actuellement.
Oui. Cette année, à l'INP, il n'y avait que deux conservateurs musées pour les musées territoriaux qui sortaient au 1er juillet de cette année. Donc c'est très peu quand on regarde le nombre de postes vacants. Alors, on pourrait aussi compter sur des conservateurs qui sont en région parisienne et qui auraient envie de partir en région. On s'aperçoit que c'est très difficile. Alors, je n'ai pas forcément la solution, on peut formuler des hypothèses à ça. Et ça me fait penser justement à cet ancien réseau des musées classés, où l'État envoyait, lui, des conservateurs en région. Le fait que ça n'existe plus, ça devient très difficile pour des villes d'attirer des conservateurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un conservateur territorial, il est très lié à ses élus. Alors quand on a des élus qui vous laissent travailler avec une certaine autonomie et avec certains moyens, tout va bien. Mais si on a des élus qui ne s'intéressent pas du tout au patrimoine, ça peut être très difficile à vivre. Et donc,
ou qui s'y intéressent trop parfois. Parce que,
ou qui s'y intéressent trop. Voilà.
Pas de la bonne manière.
Ouais. Alors c'est vrai que nous à Nancy, on a la chance d'avoir notamment un maire qui répète à qui veut l'entendre qu'il n'embauche pas des conservateurs pour faire le travail à leur place. Donc c'est une très bonne formule, je trouve. Mais on connaît aussi des cas où il y a des collègues qui sont dans des situations très délicates. Et donc je pense que la province n'est pas forcément attirante parce qu'on n'a plus cette protection qu'il y avait autrefois quand on a été envoyé par l'État. Ça donnait une certaine distance. Voilà. Moi-même, je suis détaché de la ville de Paris. Donc je n'ai pas voulu être intégré à la fonction publique territoriale. Ça laisse à l'un et à l'autre, à la collectivité et aux conservateurs, une certaine distance qui est, je pense, la distance nécessaire pour que les relations se passent bien.
Et c'est un attachement qui peut durer ad vitam aeternam
ou... Oui.
D'accord.
Oui.
Donc vous êtes effectivement, donc vous, comme ça vous avez une certaine quand même malgré tout indépendance vis-à-vis de la mairie qui permet d'avoir une certaine tranquillité d'esprit peut-être.
Voilà, il y a beaucoup de, enfin dans les conservateurs qui étaient d'anciens conservateurs de musées classés, qui étaient donc personnels de l'État, il y en a encore beaucoup en province qui restent personnels de l'État détachés. Hein,
Et ça, ça s'est arrêté quand finalement, ce détachement de personnels de l'État?
Ça s'est arrêté en 2002, en fait, avec la
loi des centralisations.
La loi musée.
La loi musée, oui, c'est voilà. Ça. Donc ça, pour vous, c'est quelque chose sur lequel on devrait revenir.
Je trouve que ça avait un certain confort. Ça existe encore dans le monde des bibliothèques, hein, et le système est plutôt efficace. Oui, je trouve que c'était un bon système. Et puis surtout, ça permet, je pense, c'est très difficile, j'imagine, enfin, je ne suis pas dans les arcanes de la fonction publique territoriale, mais c'est très difficile d'évaluer à l'avance le nombre de départs en retraite pour former suffisamment de conservateurs, etc. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on arrive à cette situation où, après avoir connu des années où on en formait trop, et il y avait des conservateurs qui avaient du mal à trouver un poste et qui risquaient de perdre le bénéfice de leur concours, on se retrouve dans une situation où on est presque en pénurie.
Alors que pourtant, il y a eu un rapport il y a quelques années de l'Association des conservateurs qui disait bien que cette situation de pénurie, on allait y arriver.
Oui. Et puis alors il y a eu aussi certaines dérives qu'on a pu voir où il y avait cette rumeur que les conservateurs coûtaient extrêmement cher et que du coup il fallait prendre des attachés. En fait, quand on regarde dans les faits, c'est une profession qui n'est pas très bien rémunérée.
C'est une profession mal rémunérée par rapport aux autres professions, oui, de la fonction publique.
Tout à fait.
Donc bon, écoutez, en tout cas merci d'avoir attiré l'attention sur ce problème de formation parce que je pense qu'il faudra peut-être que la Tribune de l'Art y revienne. il y a, comme vous le savez, un nouveau ministère, un nouveau président, etc. Donc peut-être qu'ils sont peut-être plus attentifs que les précédents au problème des conservations et des musées. Je voudrais que vous nous revenions sur les quelques, avant d'approfondir bien sûr le musée des Beaux-Arts, que nous revenions sur les musées, les deux principaux autres musées à part celui des Beaux-Arts, le musée Lorrain et le musée de l'École de Nancy, qui tous deux ont des travaux en cours actuellement. Commençons par le musée Lorrain. Rappelez-nous en 5 minutes, hein, l'idée n'est pas de regarder tout ce qui se passe au musée Lorrain, mais sur ces travaux et sur ces grands travaux, ça en est où ?
Alors ça en est où ? Très récemment, le 30 juin dernier, a eu la signature d'une convention de financement qui était vraiment l'élément important maintenant pour démarrer le chantier, où l'État a apporté 30% du budget. La région Grand Est a apporté 30%, la ville finance 30% et le département de la Meurthe-et-Moselle finance les 10% restants. Donc maintenant que le budget est réuni, les travaux vont pouvoir commencer. Les phases préalables, hein, ça a été, je les rappelle rapidement, un concours d'architecture, puis un premier avis positif de la commission des monuments historiques, puis une contre-expertise du ministère de la Culture lui-même sur un élément d'architecture qu'il fallait conserver. Donc, nouveau travail de l'architecte qui a proposé deux versions qui ont été soumises à une consultation publique.
Il y a eu deux versions, je comprends que vous ayez un devoir de réserve, mais je rappelle quand même aux éditeurs que c'est dû à quand même une forte montée de boucliers des associations,
oui,
de la Tribune de l'Art notamment, qui a été quand même pas mal citée par la presse locale. J'étais assez content de pouvoir faire évoluer le projet. Et donc, effectivement, il y a eu ce retour sur un projet qui avait été décidé pour un projet que moi ne satisfait pas complètement, mais comme je le disais tout à l'heure, qui préserve l'avenir.
Mais il y a eu justement cette consultation qui était une vraie consultation. Hein,
qui aurait pu, après tout, demander leur avis au public sur la conservation ou non d'un élément protégé. Moi, pour moi, le vrai problème à l'époque, hein, et encore une fois, ça ne vous engage pas, donc je ne vous demande pas de réaction par rapport à ça, mais c'était le problème du ministère de la Culture qui n'a pas fait son job, qui aurait été de dire au maire, il faut conserver l'écurie, le mur et l'écurie, et le ministère de la Culture aurait fait son travail de protection du patrimoine, tout cela ne serait pas arrivé. Mais bon, peu importe, finalement, j'allais dire presque un peu contre le ministère de la Culture, on est arrivé à une solution à peu près satisfaisante.
Voilà, et puis il y a eu, alors c'était assez ouvert, hein, puisque quand je parle de consultation publique, il y a eu un vote, mais il y a eu aussi du débat, notamment avec Alexandre Gady qui est venu à Nancy pour exposer son point de vue. Enfin, ça a été très ouvert finalement comme discussion, et je trouve que c'est sain parce qu'en fait tous les avis ont pu s'exprimer, et au final je pense que tous les avis ont été entendus. Alors on arrive à un compromis qui satisfait, j'imagine, le maximum de paramètres, parce qu'il y a plusieurs paramètres dans ces histoires de chantier de musée. Il y a la conservation du patrimoine, c'est très important, et puis il y a aussi ne pas trop dénaturer le projet pour qu'il reste malgré tout fonctionnel. C'est-à-dire que le musée Lorrain, actuellement, il souffre de ne pas être accessible aux personnes à mobilité réduite. Il souffre d'un déficit de protection contre l'incendie. Il souffre aussi de parcours peu clairs qui valorisent peu les œuvres. Donc on avait besoin aussi de résoudre tous ces problèmes-là, d'installer la climatisation. Donc tout ça, c'est des choses aussi qui ne sont pas forcément très esthétiques, mais qui sont indispensables.
La climatisation, je pense qu'il y a une réflexion qu'il faudrait mener sur la climatisation. On a vu un nombre d'accidents de climatisation récents tellement important que ça pose vraiment la question de savoir est-ce que les dégâts dus à la climatisation ne sont pas plus importants que les dégâts causés par l'absence de climatisation. C'est pas le sujet ici. Donc ça, c'est le musée Lorrain. Quel est maintenant le calendrier des travaux, et quand est-ce qu'on peut espérer? Il va fermer complètement? Ou il est peut-être déjà fermé complètement?
Alors, il est encore ouvert, mais on va ouvrir cet automne une exposition qui s'appelle Lorrain sans frontières, et qui traitera de l'histoire des migrations en Lorraine. Et le départ de cette exposition sera aussi la fermeture du parcours des collections permanentes. Donc on laissera le palais ouvert avec uniquement cette exposition. Et à la fin de l'exposition, le palais fermera dans son intégralité, à l'exception de l'église des Cordeliers, qui est un des joyaux de l'architecture lorraine, qui va continuer à rester ouverte. D'abord, c'est une église qui est encore affectée au culte, donc il ne semblait pas pensable de la fermer. D'autre part, elle n'est pas impactée par les travaux, donc elle peut continuer à être ouverte au public. Et l'idée, c'est de densifier le parcours muséal de cette chapelle pendant la fermeture du musée, pour qu'il y ait malgré tout quand même que le lieu ne ferme pas totalement, parce que je pense que c'est difficile aussi de fermer complètement un musée. Voilà. Et puis, il y a une phase très importante qui est en train de se mettre en place, qu'on appelle le musée hors les murs, où les chefs-d'œuvre du musée Lorrain vont se trouver exposés par le biais de dépôts ou de prêts de longue durée dans différents lieux. Par exemple, vous avez le lit du duc Antoine de Lorraine qui est exposé actuellement au château des Coins. C'est un des lits les plus anciens qu'on conserve dans les collections publiques françaises, donc c'était important qu'il reste visible. Et ainsi de suite, le musée du Louvre accueillera aussi des pièces d'orfèvrerie renaissance du trésor de Pouilly. Voilà, donc il y a des musées plus ou moins grands qui bénéficieront de ces dépôts du musée Lorrain pendant sa fermeture. Et dans ce dispositif, à Nancy, bien sûr, on a prévu d'accueillir au musée des Beaux-Arts les principaux chefs-d'œuvre du musée Lorrain.
Donc ça, c'était le musée Lorrain, mais la réouverture, pour quand ?
Alors la réouverture autour de 2023-24, parce que là, maintenant, on va rentrer vraiment dans le dur du chantier.
C'est long.
Alors c'est long parce qu'en fait, donc là, il va falloir, une fois que le musée sera fermé, on pourra le vider. Donc il y a un chantier des collections qui va débuter dès la rentrée. Et une fois que le musée sera vidé, on va pouvoir commencer les fouilles archéologiques. Il y a déjà eu beaucoup de sondages de faits, mais là on va vraiment pouvoir avancer sur les fouilles. Et on préfère être prudent parce qu'en fait, plutôt que d'annoncer des chiffres, des dates qui sont, on le voit bien, par exemple à Nantes, difficiles à tenir, on sait que là on est en cœur historique de la ville.
Avec un risque, l'autre côté du projet pour lequel je ne pense pas qu'il y ait une réponse apportée aux critiques de la tribune, je ne pense pas que vous pourrez le faire parce que vous n'avez pas forcément la possibilité de le faire, c'était que fouilles archéologiques bien sûr, et derrière, dessous, après, ça, normalement une destruction de ces fouilles, alors qu'on ne sait pas forcément, on va peut-être trouver des choses très importantes, il y a un risque quand même, non ?
Oui, alors il ne faut pas forcément le prendre comme un risque. Moi, je vois l'histoire du musée des Beaux-Arts de Nancy. On a trouvé les vestiges et fortifications de la ville, des vestiges très très bien conservés, qu'on pensait avoir été détruits du temps de Stanislas pour la construction de la place Stanislas. En fait, ils avaient été juste arasés. Et justement, comme ils ont été enterrés, ils ont été très bien conservés. L'architecte, à l'époque, a changé ses plans radicalement.
C'est ça, voilà, il faut, donc, faut pas hésiter.
Mais alors ça, voilà, ça génère aussi des retards de chantier, bien etc. Sûr. Mais maintenant, on se retrouve avec un très bel auditorium au musée. Plus un espace de présentation pour les verreries dômes qui fonctionne assez bien entre les remparts et la verrerie. C'est des beaux espaces muséographiques et puis on a sauvé un bastion de la Renaissance, donc c'est quand même plutôt heureux.
Alors maintenant, le musée de l'école de Nancy, également, il y a des travaux, mais dans la maison majorelle, c'est ça ?
Voilà, donc la Villa majorelle nécessite d'importants travaux qui ont été entrepris, alors, qui se font en deux phases. La première phase a lieu actuellement, c'est la rénovation de l'architecture, en fait, de l'extérieur, avec notamment des mitres de cheminée qui en grès, qui nécessitaient une dépose et puis une restauration complète. La villa va retrouver aussi sa toiture d'origine, avec des ardoises qui étaient taillées en écaille, enfin, une façon assez particulière. Et donc, l'idée, c'est de remettre cette villa, qui a été occupée par différents services de l'État au cours du siècle, de la remettre dans son état initial, voilà. Sachant qu'elle est très bien documentée parce que les majorelles s'en servaient un peu de carte de visite, donc ils ont fait énormément de photographies. Déjà, dans une première phase, rendre l'architecture parfaitement lisible, et la seconde phase, ça sera de traiter l'intérieur, et donc de restituer ou d'évoquer la villa telle qu'elle l'était du temps des majorelles, sachant que le mobilier a été dispersé, certaines pièces ont pu être acquises par le musée. Il y a cette problématique de remeubler une maison Art Nouveau, avec des questions très intéressantes aussi, notamment le fait que les établissements majorels produisaient aussi des meubles de style, néo-Louis XVI, néo-Louis XV, et il y en avait bien sûr dans la maison. Et donc, ce questionnement, par exemple, de est-ce qu'on refait une villa Art Nouveau en totalité, ou est-ce qu'on reste au plus près du goût de l'époque, qui était un goût un peu patchwork, et où on avait aussi bien un salon Art Nouveau très moderne, et à côté, une pièce de style, un petit boudoir 18e. Ça ne choquait pas l'œil à l'époque, et je trouve que c'est intéressant aussi pour l'histoire du goût.
Qui décide de ça, finalement ?
Alors, il y a un comité scientifique qui se réunit régulièrement, et qui, avec des collègues comme ceux de la Villa Horta, des représentants du service des musées de France, de la Direction régionale des affaires culturelles. Donc on a constitué une équipe qui réfléchit. C'est une équipe internationale parce que c'est intéressant sur ces questions de période room notamment. On a des points de vue très différents en Europe. Et parfois, les bonnes solutions ne sont pas toujours françaises.
Donc voilà. Vous...
Donc voilà, c'est des réflexions que je vous livre un petit peu en cours. Mais pour vous dire qu'en fait, c'est des chantiers très stimulants. Et donc, cette Villa Majorelle fera partie aussi, bien sûr, des éléments importants de ce parc de musée de Nancy.
Alors revenons au musée des Beaux-Arts de Nancy, qui, moi, m'a toujours frappé par la manière dont l'agrandissement qui a eu lieu il y a peut-être une trentaine d'années, c'est ça
20 ans.
20 ans seulement, 20 ans, s'est passé dans un lieu extrêmement sensible patrimonialement parlant, sans que jamais ne soit mis en péril l'aspect de la ville autour, c'est-à-dire la place Stanislas est intouchée, malgré tout il y a une extension moderne, c'est quelque chose qui est bien respecté je trouve, et qui a intégré, comme vous l'avez dit, les fouilles, les vestiges qui ont été trouvés, ça s'est bien intégré dans quelque chose d'ancien. Ce qui est une des difficultés dans les musées modernes, c'est de respecter l'ancien. Je l'ai vu récemment à Perpignan, où malheureusement, l'intérieur de bâtiments, d'hôtels particuliers, enfin, l'intégration se fait très mal, il y a eu beaucoup de destruction. On espère que ce sera la même chose pour le musée Lorrain, mais c'est une des choses qui me frappe au musée de Nancy, et la deuxième chose qui me frappe, c'est la richesse des collections, comme vous le disiez. Donc, vous êtes arrivé, vous vouliez ce musée parce que vous le trouviez important. Les collections, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que vous êtes dit? Il va falloir sortir des choses, montrer des choses, changer le parcours des collections permanentes. Qu'est-ce que vous êtes fait comme réflexion et où en êtes-vous de cette réflexion actuellement, donc 4 ans après votre arrivée?
Alors quand je suis arrivé, le musée venait déjà de subir une petite rénovation, puisque quand il avait été rénové en 99, c'est un peu incroyable, mais à l'époque on l'avait câblé en 110 volts. Et en 2012, on ne trouvait plus d'ampoule, donc il a fallu recâbler entièrement ce musée. Donc voilà, moi j'arrivais juste après cette phase un deuxième chantier finalement important. Donc j'avais pas forcément envie, et je pense pas que j'aurais été suivi hein, si j'avais voulu tout refaire directement à la foulée. Donc j'ai procédé par petites touches pour les choses avec lesquelles je me sentais moins à l'aise. Mais il y avait eu un choix muséographique qui est très intelligent, c'est que ce musée de Nancy en fait avait été conçu comme un petit Louvre. Il fait partie de la liste du décret Chaptal là, de 1802, et jusqu'à présent il fonctionnait par école. Et il se trouve qu'en fait on n'est pas très riche en peinture hollandaise par exemple. Donc cette distinction par école était peu pertinente à Nancy. Et mon prédécesseur, Claire Soulig, avait fait ce choix un peu novateur de casser cet accrochage et de faire un accrochage chronologique, enfin chronothématique pour être précis, où on mélangeait les écoles, ce qui permet des choses très intéressantes pour les publics, de leur faire comparer une peinture italienne et une peinture hollandaise de la même époque. Après moi c'était le thématique qui me dérangeait. Et l'autre chose avec laquelle j'avais un peu de mal, c'était des contrepoints contemporains. Ça a été une mode encore un peu récente, mais j'ai l'impression qu'il est passé, parce que moi je trouvais ça un petit peu daté, de mettre des œuvres d'art contemporain dans le parcours, de les semer. Et donc, petit à petit, en fait, on est revenu, on a réinstallé la partie art contemporain et art du 20e, justement en retirant les œuvres qui étaient disséminées dans le parcours pour les réinstaller comme des points forts justement du parcours. Et il nous reste encore à faire maintenant pour la période classique, c'est un accrochage plus chronologique pour qu'on comprenne bien comment naît la querelle du coloris, qu'est-ce que ça produit après, enfin voilà, qu'on puisse raconter quelque chose de simple aux visiteurs sans qu'il ait à faire d'effort de se dire ah oui j'ai vu ça il y a 3 salles, mais en fait c'était pas encore, ça n'existait pas encore, enfin c'est...
Est-ce que vous avez beaucoup de... Les réserves d'or sont où? Est-ce qu'il y a des réserves modernisées ou pas? Et où sont-elles? Et deuxième chose, est-ce qu'il y a beaucoup de choses importantes que vous aimeriez mettre dans les collections? Si je me rappelle bien, les collections sont un crochage assez dense, mais peut-être qu'on peut encore le densifier ou pas, je ne sais pas.
Oui, on peut encore le densifier. Il y a une très belle collection de peintures religieuses de très grand format. Donc, avec des problématiques de restauration.
Du 17e et 19e ?
Alors, du 18e notamment, il y a un cycle qui était le cycle des peintures du cœur de l'abbaye des Prémontrés, qui est à mon avis un cycle important, mais voilà, c'est des œuvres vraiment gigantesques, et puis surtout qui sont roulées depuis très longtemps. Je pense avec des problématiques lourdes de restauration. Et puis on a aussi toute une belle collection de peintures 19e de grand format. Donc là on va commencer la restauration d'un tableau de Devilly, Théodore Devilly, qui était un élève de Delacroix qui a été aussi directeur de l'école des Beaux-Arts de Nancy. Et c'est un tableau qui a été primé au salon de 1882 et qui n'a pas été exposé je pense depuis plus d'un siècle. Donc
Alors justement, ça c'est une problématique, c'est bien que vous l'abordiez, sur les grands formats qui personnellement m'intéressent beaucoup, tous les grands formats roulés, les tableaux qu'on ne voit jamais, qu'on n'a pas vu parfois, comme vous le dites, depuis un siècle. Alors il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, je pense particulièrement à Olivier Voisin à Amiens, et de dérouler ces tableaux. Après, la problématique, c'est pas seulement de les dérouler et de les restaurer, ce qui coûte assez cher, mais c'est de les exposer.
Oui.
Là, par exemple, ce tableau, l'Auteur de Villy, est-ce que vous avez les moyens d'exposer et est-ce que vous avez des idées? Moi, je pense que pour certains d'entre eux, autant je suis opposé au dépôt des œuvres des musées dans des mairies, des préfectures, etc., parce que c'est pas le rôle d'une œuvre du musée d'être exposée n'importe où, normalement pour le musée, mais il y a des cas pour des grands tableaux où ils ne pourront jamais être exposés dans le musée d'où ils proviennent, et peut-être qu'on peut envisager des exceptions pour ces... Parce qu'il y a des murs, il y a des murs et il y a des œuvres, et ce n'est pas simplement mettre les œuvres sur les murs, même si ce n'est pas dans un musée, c'est quand même, à mon avis, important. Est-ce que vous avez des idées comme cela?
Alors, ce tableau de Villy, justement, parce que maintenant, comme je vous disais, qu'on faisait attention à l'argent public, si je le restaure maintenant, c'est parce que je sais que je pourrais l'exposer demain, au musée. Il sera un des points forts d'une salle dédiée à l'orientalisme, parce que c'est... On essaye de fabriquer des petites cellules, justement... au sein du parcours chronologique. Mais j'ai en tête aussi certains grands formats, et ce qui me bloque dans la restauration, c'est justement de savoir que je ne peux pas les exposer. Voilà. Et donc, il faut faire un chemin inverse, c'est-à-dire de se trouver un lieu avant de lancer la restauration.
Alors, est-ce que la question que je me posais, c'est de faire une espèce de, sur la tribune de l'art, une espèce de bourse. J'en ai déjà parlé, je crois, à ce micro. Enfin, en tout cas, je ne l'ai toujours pas fait parce que ça prend beaucoup de temps et malheureusement, les projets ne manquent pas. C'est de faire une espèce de bourse aux grands tableaux roulés. C'est-à-dire que chaque musée dirait quels sont les tableaux roulés qu'il pourrait faire restaurer et qu'éventuellement il serait prêt à mettre en dépôt à long terme ailleurs, dans un autre musée qui serait intéressé par cela et qui aurait les murs pour l'exposer. Est-ce que ça, c'est une chose que vous avez envisagée d'éventuellement si un musée vous dit je peux prendre la restauration et on peut déposer ça sur un mur parce qu'on a de la place dans notre musée, est-ce que vous seriez prêt à cela? Et deuxième question, est-ce que vous seriez, ce serait possible de le déposer effectivement ailleurs qu'au musée de Nancy, mais éventuellement dans, je sais pas, par la mairie de Nancy ou ailleurs, ou sur un mur qui serait avec une collectivité ou une institution qui serait d'accord pour l'accepter?
Alors, c'est généralement très délicat parce que ces peintures 19e sont sur des toiles généralement très très fines et sont vraiment en très mauvais état. Paradoxalement, une peinture, un grand format du 17e est beaucoup plus résistant qu'une peinture du 19e. Donc, il faut malgré tout trouver un lieu qui soit pas non plus trop n'importe quoi en termes de variations
climatiques. Il n'est pas question, effectivement. Oui, bien sûr. On voit quand même beaucoup de tableaux 19e de grande taille dans les églises, bon, qui s'en sortent à peu près bien quand c'est surveillé.
Oui. Alors, moi, j'ai fait une proposition là, pour des peintures de Friant qu'on a exposées.
On reviendra à l'exposition Friant.
Qu'on a exposées récemment. C'est vrai que il semble logique qu'elles aillent à l'Hôtel de Ville.
Parce qu'elles venaient de l'Hôtel de Ville.
Parce qu'elles venaient de l'Hôtel de Ville, en plus. Donc c'est un moyen de les remettre dans le lieu pour lequel elles ont été peintes. Enfin, il y a une logique, même si elles sont maintenant sur les inventaires du musée, il y a presque une logique scientifique à les remettre dans l'endroit pour lequel elles sont faites.
Et alors ça va se faire ou pas?
Oui, je pense.
L'exposition est terminée depuis...
L'exposition est terminée. Mais oui, j'ai soumis l'idée, je pense qu'elle va aboutir.
Alors, ça fait une bonne transition des collections permanentes. Une dernière chose sur les collections permanentes, je me rappelle un tableau qui a été mis dans une muséographie un peu curieuse. Il est complètement chassé. Je crois que c'est un tableau de...
Ah, le Pérugin.
Pérugin, voilà, oui. Qui est au deuxième étage, si je ne me trompe pas, et complètement enchâssé dans un cadre qui est fixé dans une simèse. Et donc, s'il y avait le feu, alors il serait peut-être protégé un petit peu parce qu'il est dans une espèce de caisson, mais s'il y avait le feu, on pourrait pas. C'est certainement un des tableaux qu'on choisirait d'évacuer le premier.
Oui.
Et malheureusement, on peut pas le bouger. Ça, je sais que ça m'avait frappé. Vous m'en avez parlé. Ça vous préoccupe également. Est-ce que vous allez pouvoir avancer sur cela?
Oui. Alors, j'en profite du coup pour lancer un appel au mécénat.
Ah ben, allez-y.
Mais c'est vrai qu'on recherche un mécène justement pour revoir la présentation de ce tableau qui est un chef-d'œuvre C'est un très très beau Pérugin de la fin de la carrière du peintre et qui mériterait d'être à la fois mieux présenté et en même temps justement un peu plus protégé. Alors on sera peut-être pas forcément d'accord parce que j'aimerais bien qu'il soit sous verre.
C'est vrai que les caissons c'est vraiment quelque chose d'épouvantable.
Mais
pourquoi sous verre?
Alors pourquoi? Parce qu'en fait il est sur des petits panneaux de peupliers qui font 7 mm d'épaisseur, qui sont collés à la caséine, donc c'est extrêmement fragile et il a déjà subi beaucoup de restaurations. Et donc, je serais vraiment très peiné de le voir.
Et pour l'empêcher qu'un restaurateur vienne le toucher?
Non. Je serais très peiné qu'il subisse les affres du temps, que ces panneaux se remettent à bouger et qu'on se retrouve avec de la peinture qui s'écaille.
Voilà. Donc, vous le mettriez dans un caisson climatisé. Mais
dans un caisson climatique.
Mais vous avez déjà la climatisation.
Oui, mais pour ce type de peinture extrêmement fragile, qui ont déjà vécu beaucoup de choses, il y a un moment où, en fait, si on veut les transmettre aux générations suivantes, sans les repeindre à 100%, il faut avoir cette sagesse de les mettre...
Alors, je disais que vous avez une dernière question sur les questions permanentes. C'est pas vrai, j'en ai encore une dernière. Donc, c'est une nouvelle dernière. C'est sur la présentation prouvée. Ce qui me paraît étrange quand on arrive dans ce musée, c'est qu'on arrive et qu'est-ce qu'on tombe ? On tombe sur prouvée, qui est quand même la fin du parcours, la fin d'un parcours. En fait, des œuvres importantes, pas forcément... facile à comprendre, je trouve, pour le public, c'est des choses pas simples, et surtout qui datent de 1940, 50, je ne me trompe pas. Et c'est le début du parcours. Moi, je trouve ça un peu rébarbatif, ce serait peut-être mieux si ça se trouvait à la fin du parcours. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez pu avancer ou pas ? Est-ce que vous voulez d'ailleurs avancer là-dessus ou pas ?
C'est une question de point de vue. Les agents d'accueil du musée ont pour consigne d'inviter les visiteurs à monter directement au second étage, donc à la peinture du XIVe siècle, pour que le musée se vide du haut vers le bas. Pour le plus confortable, il vaut mieux on prend l'ascenseur et ensuite on visite à pied en redescendant en spirale. Et donc, si on fait ça, on termine par prouver. Voilà. Ça dépend en quel sens on prend le musée. Mais si vous commencez par prouver, alors vous allez faire tout le musée
à l'envers.
C'est le 19e, 18e, etc. Donc ça dépend par où on commence.
D'accord. Bon.
Mais je suis très content d'avoir un musée où on peut faire une boucle. Par exemple, moi, je me rappelle, au Petit Palais, on réfléchissait beaucoup. C'est un musée qui est très bien conçu, mais qui a un défaut, c'est que vous êtes obligé de repasser au même endroit ou d'arriver dans un cul-de-sac. On ne peut pas boucler complètement le musée.
D'accord. Alors, parlons maintenant des expositions. Commençons par l'exposition qui n'est pas la première et qui n'est pas la dernière, mais qui est une de celles qui a marqué, je crois. C'est celle sur Émile Friant. J'avais été très enthousiaste quand j'étais venu la voir. Et je crois que le public aussi a été très enthousiaste parce qu'il y a eu beaucoup, il y a eu un gros succès. Alors j'ai vu des photos qui paraissent étonnantes, même sidérantes, avec des files d'attente pour les derniers jours pour rentrer voir un artiste qui n'est pas un impressionniste, qui n'est pas un artiste très connu finalement, et pourtant qui a eu un succès et qui est un très bon artiste. Mais c'était étonnant, c'était des vraies photos.
C'était des vraies photos, oui, oui. Non, alors c'est vrai que ça a été un succès populaire. Je commente pas souvent les chiffres de fréquentation, mais c'est vrai que là, on a eu la plus grosse fréquentation que le musée ait connue depuis sa réouverture.
Avec combien de
visiteurs ? 70 000.
70 000 visiteurs.
C'est pour énorme, un musée qui fait, en général, entre 110 et 120 000 visiteurs par an. En gros, on peut dire qu'il y a eu plus de la moitié de la fréquentation de l'année sur cette exposition. Et pareil, en termes d'édition, le catalogue, c'est l'ouvrage le plus vendu actuellement à la librairie.
Et comment vous expliquez ça ? À part que le peintre est très bon, mais il y a plein d'expositions avec des peintres excellents.
Oui.
Je rappelle que l'exposition Lebrun n'est pas un mauvais peintre, à Lens, ça fait 40 000 entrées.
Oui. Et quelque chose que je ne devrais pas dire trop fort, mais c'est une exposition qui a été bénéficiaire aussi.
D'accord. Ce qui est rare.
Ce qui est rare. Alors, bon, ça s'explique aussi parce qu'elle avait un coût extrêmement réduit. On n'a pas fait.
Vous avez fait vous-même la scénographie, d'ailleurs.
Voilà.
C'est d'ailleurs très réussi, je l'avais écrit également. Ce n'est pas pour vous faire rougir, mais je le pensais vraiment. Mais alors pourquoi ? Alors vraiment, c'est très étonnant ce succès, ce qui prouve d'ailleurs que l'art ancien, l'art 19e, peut attirer les gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, on a toujours à cœur de faire des expositions populaires. Et cette exposition, on a essayé de prendre en compte toutes les demandes du public. Alors l'artiste, c'était un choix un peu... Quand je suis arrivé à Nancy, vous savez, on présente toujours une sorte de programmation qu'on souhaite mettre en place. J'avais mis Friant, parce que moi j'avais un... J'avais été très ému de découvrir ce peintre quand j'étais venu la première fois à Nancy. Peintre qui n'est pas très très connu, effectivement. Et pour faire une exposition populaire, on s'aperçoit qu'en fait, il faut être très exigeant. Et dans cette exposition, la quasi-totalité des cartels était développée, par exemple. Plus des panneaux de salle, plus des livrets de visite, plus un audio guide.
Plus un catalogue.
Plus un catalogue.
Ce qui va de soi, mais pas toujours maintenant.
Grâce au Centre Dramatique National de Nancy, j'ai fait la mise en scène d'une pièce de théâtre avec un texte de Philippe Claudel. Donc on a aussi été débordé sur le domaine du spectacle vivant. Alors, souvent les musées et le spectacle vivant se font la guerre. Là on a travaillé vraiment en synergie. Et je pense que c'est vraiment tout ça qui fait un succès populaire. C'est-à-dire que le public est vraiment venu adhérer à cet artiste. Enfin, la...
Qu'il connaissait ? Est-ce que le public nancyen connaissait déjà Émile Friant ?
Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens à Nancy qui connaissaient Friant, parce que le musée de Nancy, c'était le dernier musée, je pense, à présenter dans ses collections permanentes au moins une œuvre de Friant. Enfin, il y a toujours eu des Friants exposés en permanence. Alors qu'il y en a dans les collections d'Orsay, il y en a dans la collection Montpellier, on en trouve un peu partout, au Petit Palais. Mais c'était le dernier endroit où on en voyait. Donc je pense qu'il y a encore le public local connaissait encore. Mais on n'atteint pas ce genre de chiffres si on ne va pas drainer du public plus loin. Donc je pense que c'est plus l'aspect découverte, je ne sais pas. C'est un peintre qui est malgré tout très intéressant parce qu'il fait partie de cette dernière génération de peintres académiques. Qu'on regarde maintenant avec presque surprise. Quand on n'est pas, quand on s'intéresse pas à ce domaine-là, on est surpris de la qualité de cette peinture. Qu'on qualifiait avant, on la regardait un peu de haut. Faut pas oublier que le musée d'Orsay n'a que 30 ans. Je repense au Petit Palais avec des figures comme Thérèse Burolet qui avait vraiment remis en avant des peintres comme Bouguereau ou même Michel Hilaire qui avait ressorti Cabanel. Enfin, on a fait quand même des choses qui seraient passées pour du n'importe quoi. Voilà. Alors en plus, l'autre raison pour laquelle j'étais très attaché à faire Friant, bien qu'il n'y ait pas eu de texte de lui dessus, c'était que je voudrais que le musée soit attaché le plus possible à la figure de Jacques Tuillier. Et Jacques Tuillier a vraiment œuvré toute sa vie, alors pour le 17e bien sûr, mais aussi pour la reconnaissance de peintres du 19e, pour Bastien Lepage, pour... Et donc Friant appartient à cette catégorie-là. Alors même s'il n'a pas été traité par Tuillier, nous trouvait légitime pour traiter ce sujet.
Quelles étaient, à part cela, les expositions précédentes ? Alors vous avez parlé des expositions des autoportraits d'Orsay. Donc il y a une exposition que j'ai trouvée intéressante parce que vous voyez des œuvres qu'on voyait, que Orsay a ressorties spécialement pour cela. Mais c'est évidemment une exposition moins novatrice. Hein. Il y a également l'exposition des tapisseries du Petit Palais, que moi j'ai vu effectivement à Nancy, pas à Paris, parce qu'on ne peut pas les exposer. Rappelez-moi quelles sont les principales expositions que vous avez eues et quelles sont vos intentions pour les expositions à venir.
Alors il y a eu une exposition sur les peintres de la famille Roire.
Je ne l'avais pas vu, effectivement, celle-ci.
Qui avait été traité par Bénédicte Bonnet-Saint-Georges.
Tout à fait, c'est Bénédicte Bonnet-Saint-Georges qui était venu. C'était une exposition qui était venue après à...
Qui avait ensuite été à Hyères et qui a ensuite été au musée Caillebotte et qui...
Au musée, Marmottan. Non, c'était pas le même.
Non, c'est pas le même.
Il y avait plusieurs expositions Roire.
Par contre, elle a été présentée aussi au musée de Pont-Aven. C'était une des expositions d'ouverture.
Effectivement, et c'est Bénédicte Bonnet-Saint-Georges qui en a parlé sur le site.
Donc c'est une exposition qui a commencé à Nancy, mais qui a eu une vie très très longue parce qu'il y a eu cinq étapes. Donc là aussi, alors un succès populaire un peu inattendu parce que même si la figure d'Henri Roire est très importante dans l'histoire de l'art pour son mécénat aux artistes de la génération impressionniste, on l'avait pas vraiment regardé comme peintre avant. Et donc c'était intéressant de regarder la qualité de sa peinture. Mais c'était un pari un peu risqué parce que c'est difficile de défricher aussi, d'aller sur ce terrain d'un artiste qui est aussi un mécène. Et donc, est-ce qu'on l'apprécie comme mécène ou comme artiste ? Donc, c'était une exposition qui était pas simple, mais qui a eu aussi pas mal de succès. Et puis sinon, on a une exposition sur Étienne Courneau, qui est un artiste de la période Art déco. Là, on sort peut-être un petit peu du champ.
On est encore dans le champ. L'Art déco nous concerne.
Voilà. Donc.
Mais effectivement, cette exposition, je ne me rappelle pas qu'on l'ait traitée.
Et c'est un artiste qui a fait des très belles compositions sur des miroirs, qui a réalisé un peu des sculptures aussi, des peintures au sable. Enfin, quelque chose d'assez intéressant. Mais là encore, relativement méconnu.
Alors, dans les expositions à venir, alors, vous allez me dire ce que vous souhaitez faire, mais moi j'aimerais beaucoup qu'il y ait une exposition sur Henri Lévy, parce qu'il y a eu une petite présentation il y a quelques années, un petit livret, un petit catalogue, mais très 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 mince, sur Henri Lévy. Je sais que vous avez acquis récemment, des dessins de Henri Lévy, oui. Et c'est un artiste nancéien, très intéressant, et dans le cadre des artistes entre guillemets pompiers, j'aime pas beaucoup ce terme parce que ça veut pas dire grand chose, mais en tout cas c'est un très bel artiste de la seconde moitié, un peu de Lacrucien, un peu qui a regardé de la croix beaucoup, de la seconde moitié du 19e siècle, qui a peint de grands tableaux, mais également des tableaux plus petits, qui a fait des décors, etc. Est-ce que c'est un artiste que vous envisagez d'exposer? Et sinon, pourquoi?
Non, alors les artistes que j'envisagerais d'exposer, il y en a plein. Alors il y a Henri Lévy, effectivement, il y a Charles Sellier aussi, grand peintre nancéen. Peut-être notre plus vieux peintre symboliste. avec un prix de Rome qui avait été Ingres qui a émis sa démission dans la balance pour qu'il soit prix de Rome. Enfin, c'est une histoire phénoménale. On a une très belle collection, mais qui nécessite intégralement être restaurée. Donc là aussi, c'est des projets à moyen long terme. Dans le futur immédiat du musée, donc on va avoir une exposition sur les orientalistes lorrains. Parce que moi, c'est parfois il y a des sujets qui s'imposent un peu à nous. Quand je suis arrivé à Nancy, j'étais frappé par la densité de peintres orientalistes dans les collections. Et ça me semblait pas du tout logique. On n'est pas à Marseille, où on n'a pas de contact avec la Méditerranée. Et en fait, il y a toute une histoire locale très intéressante avec des figures comme Charles Cournot, qui était archéologue et ami de Delacroix, son exécuteur testamentaire. Et puis des personnages comme Hubert Lyautey, qui ont créé ces contacts entre l'Afrique du Nord et la Lorraine. Et on a beaucoup de peintres lorrains qui ont eu des périodes orientalistes, dont Victor Prouvet, par exemple. Et donc c'était intéressant de se concentrer là-dessus. Et puis on parlait de la rénovation du Musée des Beaux-Arts, que je trouve aussi exemplaire, et qui va donc fêter son 20e anniversaire. Et donc je voulais qu'on ait aussi, l'année prochaine, un moment de... où on regarde en arrière une exposition sur les 20 ans du musée rénové. Qu'on regarde les principales acquisitions, les principales restaurations. Ça nous permet aussi de faire comprendre un peu nos logiques au public. Et puis pour nous, c'est un moment aussi d'introspection qui est intéressant, parce que je souhaiterais qu'on en profite aussi pour écrire le projet scientifique et culturel du musée. Et donc le meilleur moyen de commencer un PSC, c'est de regarder en arrière ce qui a été fait, le travail, et puis de voir justement les logiques qui l'ont guidé.
Est-ce que des expositions sur la peinture ancienne, parce que la Lorraine évidemment est un grand centre de peinture au XVIIe siècle notamment, au XVIIIe siècle aussi il y a eu un livre qui est paru, mais je ne crois pas qu'il y ait eu jamais vraiment d'études sur le XVIIIe siècle lorrain, en tout cas d'exposition, il y a eu une étude. Oui. Donc, est-ce que par exemple une exposition sur le XVIIIe siècle lorrain, la peinture en Lorraine au XVIIIe siècle ne pourrait pas être intéressante, est-ce que vous l'envisagez? Ou bien alors, je me rappelle aussi avoir vu à Nancy des expositions, une exposition extraordinaire, qui était avant la Tribune de l'Art, c'était sur la Georges Lallemand et les peintres lorrains au XVIIe siècle. Il y a beaucoup de peintres lorrains au XVIIe siècle. Est-ce que dans ces deux voies, XVIIe et XVIIIe siècle, vous avez également des projets où vous envisagez, sans avoir des projets vraiment concrétisés, est-ce que vous envisagez de faire des choses?
Alors oui, il y a des... Quand on parlait des grands formats tout à l'heure, je pensais dans ma tête à Jean Girardet, qui est un peintre lorrain qui est important.
Il y a même des décors. Alors, je ne sais plus si c'est lui, mais il y a un décor, il y a des peintures murales à Nancy également.
Il a peint le grand salon de l'hôtel de ville.
Voilà, l'hôtel de ville.
Le salon carré de l'hôtel de ville. Il a beaucoup travaillé à l'abbaye des Prémontrés, à Pont-à-Mousson. Donc, il y a ces grands peintres lorrains. Et en même temps, là, je déborde un petit peu sur les plates-bandes scientifiques du musée lorrain.
D'accord.
Et donc, vous voyez que c'est...
Justement, parce que c'est vrai que le musée lorrain a la tour et plusieurs copies de la tour, ou des bonnes copies de la tour d'ailleurs, ce que pourrait avoir le musée des Beaux-Arts finalement.
Tout à fait. Et donc là, on va avoir un temps justement un peu particulier, où le musée lorrain étant fermé, il n'est pas exclu justement que ces sujets lorrains que le musée des Beaux-Arts n'allait pas forcément traiter, parce que c'est plus des sujets lorrains et donc du coup ils reviennent de plein droit au musée lorrain, on les traite en commun. L'idée de la direction des musées, c'est aussi de permettre cette collaboration scientifique entre deux établissements, notamment le musée lorrain et le musée des Beaux-Arts. À l'avenir, on aura ces temps de réflexion en commun. Par exemple, je n'ai pas parlé des équipes scientifiques qu'on a la chance d'avoir à Nancy, en dehors des directeurs, parce qu'il y a quand même des conservateurs importants à Nancy. Et on a Pierre-Hippolyte Penet, qui est un spécialiste de la sculpture plutôt 17e, mais qui est en train de commencer le catalogue des sculptures des musées. Voilà. Par exemple, c'est des projets qui sont vraiment liés avec la direction des musées, parce que le musée des Beaux-Arts n'a pas une collection de sculptures exceptionnelle en termes de nombre. Le musée lorrain est très riche, mais n'a pas que de la sculpture lorraine. Et donc, il était intelligent de réfléchir à l'échelle du territoire et pas d'un musée.
Alors, sur les collections permanentes, finalement, on y revient sur la publication. On a parlé des expositions à venir, et sur la publication... je me rappelle, même sur Internet, il y avait un site Internet, je n'ai pas très bien compris, il avait dû être fait, je crois, par l'éditeur du catalogue des peintures de Nancy. Et en tout cas, c'est un site qui n'existe plus. Il y avait pourtant les peintures de Nancy étaient sur Internet grâce à ce site que j'avais signalé en son temps, qui n'existe plus. Est-ce que vous avez des projets au point de vue de développement des collections sur Internet et des projets de futurs catalogues en dehors de celui sur les sculptures dont vous nous parliez ?
Alors, on souhaiterait avoir un portail des collections C'est très à la mode, mais c'est très utile.
Celui
aussi.
Celui de Nantes, par exemple, le musée de Nantes vient de rouvrir avec un... Alors, je ne sais pas depuis combien de temps, il est depuis quelques temps. En tout cas, là, j'ai vu pour la première fois les collections du musée de Nantes. Elles sont très, très bien mises en valeur sur leur portail.
Oui, et je pense que nous, c'est notre axe de développement principal. C'est un portail des collections, parce que ça permet, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas en donnant un accès numérique aux collections qu'on réduit sa fréquentation. Je pense même que c'est l'inverse. Et puis d'autre part, ça permet maintenant de faire des découvertes incroyables qu'on ne pouvait pas faire avant ces échanges de données. Dans les priorités, nous, il y a notre cabinet art graphique, parce que ça permet de répondre par anticipation à ceux qui voudraient toucher à l'inaliénabilité des collections en nous disant « mais vous exposez que 10% de vos collections ». Le gros pourcentage d'œuvres qui ne sont pas exposées, c'est aussi les cabinets art graphiques, et on se doit de les exposer. Alors on ne peut pas les exposer physiquement, mais d'un point de vue numérique, ça me paraît très important.
Alors en revanche, vous n'avez pas de cabinet, justement, vous n'avez pas d'exposition tournante de dessins où vous pourriez faire tourner votre fonds très important, dont je rappelle qu'une partie, grande partie, provient de la collection Jacques Lullier.
Oui. Alors il y a un espace permanent d'art graphique où on change tous les 3 mois les feuilles. Donc là, en ce moment, on peut voir une série de gravures de Callot.
Il se trouve où? C'est au premier étage, c'est ça, dans une...
Alors, il se trouve au premier étage, voilà, dans un grand couloir.
Couloir, c'est ça,
il n'y a
oui.
pas de lumière,
oui,
oui. Il y a plusieurs vitrines,
oui, oui.
Donc on en voit en permanence. Et puis, surtout, au rez-de-chaussée, il y a une salle qui est généralement plutôt dédiée aux arts graphiques, où on fait des expositions. Bah, c'est là qu'il y avait eu une très belle exposition qui avait été faite par Pierre Stepanov avant qu'il arrive à...
Montpellier.
À Montpellier, parce qu'il était en stage avec moi à Nancy. Il avait fait une exposition sur la gravure d'ornement au XVIIe siècle, d'après le cabinet de Tuilier. Donc c'est une salle qui nous permet, quand on a fini par exemple de récolter un secteur de collection, d'en faire une petite exposition dossier. Donc c'est un peu moins fréquent, mais c'est un espace où on présente quand même quasiment tout le temps des arts graphiques.
Alors parlons maintenant, revenons sur Jacques Tuilier, donc, qui a été un des grands bienfaiteurs du musée de Vic-sur-Seille, bien sûr, mais du musée de Nancy, ce qu'on sait finalement deux fois moins, parce que c'est les choses les moins visibles, ce sont les dessins et les gravures. Alors j'ai pas tout compris du fait que quand Jacques Tuilier, donc il y a eu le legs de Jacques Tuilier, qui n'était pas, c'était un don d'ailleurs, je crois, un don.
C'était un don.
Un don, donc Jacques Tuilier, son frère, qui au départ était anonyme, c'était très drôle, parce que finalement c'est quelqu'un qui a passé son temps à attribuer, il fait un don anonyme, alors que toutes les personnes qui connaissaient Jacques Tuilier savaient que c'était lui, et que ceux qui ne le connaissaient pas ne connaissaient pas qui était Jacques Tuilier, donc c'était pas très... Bon, en tout cas, depuis qu'il est décédé, malheureusement, en tout cas, on sait que c'est Jacques Tuilier, enfin, on le sait officiellement, on peut le dire.
Oui.
Moi, j'aimerais comprendre comment s'est passé tout cela, parce que j'ai appris, donc je l'avais même dit sur le site, à un moment donné, il y a des œuvres qui sont arrivées, et ensuite, quand il est mort, il y a encore des œuvres qui sont arrivées, qui n'étaient pas vraiment inventoriées, et je crois qu'il y a encore des dons, là, qui sont faits par son frère, par lui, c'est le reste de sa collection. Comment ça se passe? Expliquez-moi comment cette collection arrive à Nancy en plusieurs fois, finalement.
Alors, en 99, donc, c'est l'acte officiel de cette donation qui s'est faite avec des conditions très particulières. Donc, il y a cette clause d'anonymat qui a été levée justement à la mort de Jacques Tuilier. Et puis, il y avait aussi ce désir de Jacques Tuilier d'annoter lui-même et de monter les dessins avant de les donner au musée. Donc il en a annoté et monté une grosse partie, et puis il est mort avant de finir. Donc suite à sa mort, on a récupéré tout le reste du fonds qui était prévu pour le musée des Beaux-Arts de Nancy, qu'on a ensuite nous-mêmes monté et inventorié. Mais plus récemment, on a eu une donation complémentaire, cette fois-ci de peinture, qui est venue compléter cet ensemble. Il s'agit en fait... alors moi j'ai reconnu quelques œuvres qui étaient passées en vente, soit la grande vente Tuilier, soit la petite vente qui avait eu lieu avant chez Arcurial.
Rachetées par son frère, c'est ça? Non.
Je pense des lots non vendus.
Les lots non vendus, d'accord.
Qui ont été conservés par son frère, mais qui du coup n'avaient pas été prévus... En fait il y a eu un partage, il y a eu effectivement un choix de peinture pour Vic-sur-Seille, les arts graphiques pour Nancy, une grosse partie de la documentation pour la médiathèque de Nevers... Mais il avait aussi gardé peut-être des œuvres auxquelles il était effectivement plus attaché, des choses chez lui. Et donc, c'est ces œuvres-là qui maintenant rentrent au musée.
Rentrent au musée, données par son frère, donc.
Données par son frère, oui.
D'accord. Donc, vous relirez l'article sur la Tribune de l'Art, évidemment, pour avoir plus de détails. Plus de détails qu'on aimerait d'ailleurs avoir sur tous les dessins, parce qu'on parlait d'inventaire, tout est inventorié, bien sûr, maintenant. Mais tout n'est pas sur Internet et finalement on ne sait pas tout ce qu'il y a dans cette collection. Il y avait un album qui avait été fait avec quelques quelques-uns des dessins, mais on ne connaît pas finalement l'intégralité de ce don. Il n'a pas été publié, sauf les gravures, je crois, si je ne me trompe pas.
Les gravures 17e.
17e, voilà.
En fait, il est très vaste et assez intéressant parce qu'il est très hétérogène. On a même des gravures contemporaines. On avait fait, il y a quelques années, j'avais fait venir Éric Desmazières pour une exposition de gravures contemporaines. Il avait retrouvé des œuvres de sa main dans le fond Tuileries. Mais il y a aussi des graveurs polonais contemporains. Il y a tout un... C'est vraiment très vaste. Et donc, c'est une collection qui reste à étudier et que, justement, on étudie par petits paquets en fonction de nos moyens. Et on a mis en place donc un compte Flickr en attendant d'avoir vraiment un vrai portail des collections où on bascule systématiquement tous les accrochages d'exposition dossier qu'on fait sur le cabinet Tuileries. On les met en ligne par ce biais.
D'accord, moi je mettrai le compte Flickr, l'adresse mail.
C'est un peu artisanal, internet, etc., mais ça fonctionne très bien. En fait, on peut mettre les images en bonne définition. Parce qu'on les verse aussi sur la base Joconde, mais vous savez que sur la base Joconde, la définition des clichés n'est pas forcément...
Pas bonne du tout.
Voilà.
Oui. Et puis la recherche est parfois un peu compliquée.
Et quand on parle de dessin, c'est dommage, en fait, de ne pas avoir un bon cliché. Sachant qu'alors, je précise qu'il y avait une clause dans cette donation aussi, qui est peut-être mal connue, mais que les chercheurs devraient tous connaître, c'est que... Jacques Tuileries voulait que les clichés soient fournis par le musée gracieusement, sans se poser de questions pourquoi. Hein, ça peut être pour éditer une carte postale ou pour illustrer un mémoire de thèse. On doit les fournir gratuitement à qui en fait la demande.
Donc en haute définition.
En haute définition.
Donc ça, effectivement, c'est quelque chose d'important à savoir parce qu'on sait que malheureusement, le copy fraude, ce que j'appelle le copy fraude, sévit un petit peu trop souvent dans les reproductions d'œuvres de musées qui sont tombées dans le domaine public. Encore une fois, à mon sens, et je ne suis pas le seul à avoir cette interprétation, un photographe qui photographie une œuvre en deux dimensions ne fait qu'une reproduction de l'œuvre. Donc il n'y a pas du droit du photographe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous avez besoin, plutôt que de demander à d'autres institutions qui vous feront payer, vous pouvez demander au Musée des Beaux-Arts de Nancy la reproduction gratuite de certaines de leurs œuvres de la donation Tuileries, et vous les aurez sans problème. On a parlé donc d'une acquisition. Maintenant, parlons un peu plus des acquisitions. Il y a des musées qui achètent beaucoup. On parlait tout à l'heure de Pierre Stepanov qui maintenant est à Montpellier et il s'en donne à cœur joie avec Michel Hilaire pour trouver des œuvres et pour acheter avec des budgets assez importants. Le musée de Nancy acquiert, mais peut-être pas encore suffisamment, en tout cas peut-être pas au niveau où un musée comme celui-ci devrait acheter. Comment ça fonctionne? Vous avez un budget, pas de budget? Est-ce que c'est en fonction des demandes? Et est-ce que vous n'êtes pas un peu frustré finalement de ne pas pouvoir avoir suffisamment d'acquisitions? Une question difficile, hein, parce que je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais voilà, je vous la pose.
Disons qu'en fait, quand les acquisitions, c'est aussi parfois des histoires d'opportunités. Et là, cette année, c'est le musée Lorrain qui en bénéficiera. On vient d'acheter l'épée de grand écuyer de...
Vous en parlez sur le site, effectivement.
Voilà, qui représente pour la ville un investissement important. Et donc, l'idée, c'est... Alors, même si j'aimerais toujours plus, hein, et j'en aurais jamais assez. Voilà, je vous le dis.
Mais même à Montpellier, je pense qu'ils n'en ont jamais assez.
Voilà, il n'y a pas de limite. Mais en fait, l'idée, c'est de concentrer nos moyens. Voilà, nos moyens sont ce qu'ils sont. Il faut donc les concentrer. Après, c'est vrai que moi, je regrette, mais j'ai pas forcément le temps pour tout, mais il faudrait qu'on puisse avoir plus de mécénats. Et ça prend énormément de temps. Parce que finalement, moi, quand je regarde le temps que j'y passe et ce qui tombe vraiment dans la caisse du musée, c'est ça peut avoir on peut vivre des moments un peu frustrants, un peu décourageants. Voilà.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de... Il me semblait, mais ça c'est une vraie question, parce que je ne me suis jamais préoccupé vraiment de ça, mais il n'y a pas des spécialistes de recherche de mécénat qui prennent à la limite un pourcentage au passage, mais au moins ils trouvent de l'argent. Est-ce que ça, les musées peuvent le faire? Je ne sais pas s'ils ont le droit de le faire ou de faire appel à ça ou pas.
Alors après, oui, je pense qu'on y aurait droit. Et d'ailleurs, on est en train de se poser la question, hein, très concrètement. Après, c'est vrai que les règles de la comptabilité publique sont... C'est presque aussi long d'étudier ce genre de montage que de faire la recherche soi-même actuellement. Mais je pense qu'un jour, on y viendra parce que ça devient un vrai métier. Et les gros musées, comme je pense au Louvre, Orsay, enfin les grands établissements, ont des services mécénat très bien fournis. Les petits musées ou les musées de taille moyenne, c'est plus difficile. Et je dirais aussi qu'on vit dans une France très jacobine et la nouvelle carte des régions a encore aggravé la chose. C'est que les sièges des entreprises sont pour la plupart à Paris. C'est là que se décident les mécénats. Et en région, Bah, comme on a moins de régions, on a moins de... Les sièges aussi de banques ou d'entreprises se regroupent. Donc, on se retrouve avec une compétition de plus en plus forte. Et c'est qui bénéficie toujours au plus gros.
Et est-ce que vous avez pensé à monter un cercle de mécènes ou comme ça se fait dans d'autres musées également, qui pourrait regrouper des entreprises qui mettraient au pot tous les ans? Est-ce que vous donneriez un fonds de dotation éventuellement, comme c'est fait, je crois, à Rennes, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez?
Alors, il y a une réflexion qui est en cours. Alors, je salue au passage quand même l'action des sociétés d'amis de musées, parce qu'on a la chance d'en avoir une.
Oui, annoncée. C'est vrai qu'ils publient d'ailleurs une revue.
Qui publie une revue de très bonne tenue et qui, du coup, elle qui a plus de souplesse, peut monter ses opérations de mécénat pour le compte du musée. C'est-à-dire qu'en général, quand on a un don des amis du musée, ils renforcent leurs moyens en faisant appel au mécénat de leur côté.
À moins que vous ayez quelques projets dont vous voudriez encore nous parler pour les musées de Nancy ou pour le musée des Beaux-Arts, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les expositions que vous avez vues récemment et qui vous ont marqué, ou les livres que vous avez lus et qui vous paraissent importants, à signaler?
Alors, dans les expositions, c'est un petit peu centré sur le 18e siècle, mais il y a l'exposition sur l'art dans les églises à Paris au 18e siècle au Petit Palais, qui était vraiment, je pense...
On l'a salué également sur la Tribune de l'Art, et tout le monde à ce micro le dit. Il y a encore, je crois, 15 jours pour la voir, donc...
Et ça, c'est vraiment une réussite. Et... Alors, en plus, j'avais vu celle de Thierry Sarment et de Guillaume Caseroni à Carnavalet il y a 4 ou 5 ans.
5 ans, c'est ça, voilà. Oui.
Sur les églises du 17e. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant d'avoir cette continuité. Surtout qu'en plus, c'était. Ça casse un petit peu, peut-être. L'exposition était très riche. Et elle allait même sur des questionnements que je trouvais très intelligents sur est-ce que c'est vraiment un siècle complètement athée ou pas? Est-ce qu'on peut vraiment parler de peinture religieuse ou est-ce qu'on est face à du décor pur? Donc des problématiques qui sont vraiment intéressantes. Et il se trouve que j'avais visité un petit peu dans la foulée, moi, l'exposition qui m'a beaucoup plu à Cognac-G sur Venise. Et où on retrouve en fait ces mêmes problématiques, mais inversées. C'est-à-dire qu'on se rend compte, et c'était très bien mis en valeur dans l'exposition, que le religieux vient grignoter la vie publique, la vie politique à Venise, même sur des thèmes païens, enfin, ou profanes. Donc c'était vraiment très intéressant d'avoir ces deux expositions en même temps pour vraiment faire le plein de 18e avec deux regards différents.
Et malheureusement, une exposition que nous n'avons pas traitée sur Venise.
Qui, je crois, est fermée.
Crains, et malheureusement. On arrive, malgré tout, on n'arrive pas à voir toutes les expositions et à parler de toutes les expositions, c'est dommage. J'espère qu'on arrivera bientôt à le faire en se développant. Vous parlez de livres également ou de...
Alors, j'étais très intéressé par le livre sur Faut-il sauver la rue de Valois de Charles Personnaz, oui, et Emmanuel Pénicaud.
Que j'ai reçu à ce micro pour ce livre.
Et ça fait plaisir de voir des livres qui paraissent sur ce sujet-là. Parce que je parlais tout à l'heure de prendre du recul sur les musées, mais prendre du recul sur un ministère, c'est peut-être encore plus important. Et c'est vrai qu'on a toujours les conservateurs... On fait part de beaucoup d'attentes ces dernières années. Hein. Il y a eu le livre blanc des conservateurs qui n'a pas donné grand-chose. Il y avait eu Frédéric Mitterrand qui avait tendu des perches aux conservateurs. Il avait notamment organisé un dîner où il avait invité des conservateurs de tous âges. Alors j'en faisais partie. Il y avait des conservateurs généraux, des jeunes conservateurs qui sortaient de l'INP. Il y a à la fois cette demande et puis je pense cette prise de conscience au ministère qu'il y a un problème sur le métier de conservateur. Et ce livre venait lancer des réflexions. Alors, je ne suis pas d'accord avec tout, mais je trouvais qu'il avait, il tombait au bon moment.
Par exemple, vous êtes d'accord avec quoi et pas d'accord avec quoi? Parce que c'est la même chose. Quand je les ai reçus, j'étais d'accord avec beaucoup de choses. Ouais. Pas avec tout, mais peu importe. C'était au moins intéressant de parler de tout cela.
Alors, j'étais très intéressé par leur idée de repenser la décentralisation des musées et sur le modèle de ce qui existe pour les bibliothèques. Et notamment, donc on en parlait rapidement tout à l'heure, mais que certains grands musées, qu'on appelait autrefois les musées classés, soient quand même un peu plus sous la tutelle de l'État qu'ils ne le sont actuellement. Parce que, voilà, comme on dit, quand ça va bien, mais quand ça va pas, ça va pas du tout. Et puis, le temps d'un musée, c'est pas le temps d'un mandat politique. On parlait du musée Lorrain, c'est un chantier de rénovation qui est extrêmement long. Et bien qu'il y ait eu un changement de maire, il n'y a pas eu de remise en question du projet. Mais on a vu aussi des communes en France où il y avait des projets de rénovation qui étaient très avancés. Et parce qu'on a changé de maire, on a abandonné le projet. Et il est impossible de rénover un grand musée en 5 ans. Voilà. On citait le cas de Montpellier, par exemple. Je ne pense pas qu'on aurait rénové le musée Fabre si on avait eu une succession politique. Voilà. Et donc, il y a besoin de stabilité. Et cette stabilité, finalement, si ce n'est pas les élus, c'est les conservateurs qui assurent cette continuité du projet. Donc ça, c'était une idée intéressante. Alors, il y avait quelques réflexions sur l'Institut national du patrimoine, sur la formation des conservateurs, avec une idée qui est pas toute jeune, hein, mais qui n'a jamais été mise en application, qui était de former les directeurs de musée. Je me rappelle de Philippe Duret, l'actuel directeur de l'école du Louvre, qui parlait d'une école de guerre pour les conservateurs. C'est très différent, finalement, comme métier, d'être conservateur d'une collection et directeur d'un musée. Et en même temps, il y a une vraie logique française à mêler les deux, parce que sinon, on va se retrouver demain avec des musées qui seront dirigés par des administratifs pur jus et qui n'auront pas forcément de vision patrimoniale. Et donc, on parlait tout à l'heure de la répartition des missions à la direction des musées de Nancy. C'est pas forcément ce qui m'excite le plus, c'est parce qu'il m'a motivé dans mon parcours pour passer l'INP. C'est pas de m'occuper d'histoire administrative ou comptable, mais je préfère m'en occuper plutôt que de le confier à d'autres. Et puis, surtout, on est en pleine responsabilité de ce qu'on fait. Donc, c'est important c'était une réflexion en tout cas importante de se poser la question de comment est-ce qu'on forme les directeurs de musée et de permettre aux conservateurs d'avoir cette formation pour, en même temps, être de bons gestionnaires parce que c'est pas... je reviens sur l'argent public, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, il faut qu'on ait ces soucis aussi de l'économie. Enfin, on parlait tout à l'heure de la scénographie. Moi, j'adore travailler avec des scénographes et c'est très confortable et c'est généralement un plus. Mais il y a un moment où, quand on a les comptes en main, on se dit, voilà, c'est soit on supprime une exposition dans l'année et on fait toutes les autres avec un scénographe, soit on supprime le scénographe et on peut avoir plus d'expositions. C'est important qu'on ait aussi un œil sur la partie économique du fonctionnement.
Très bien, écoutez, nous conclurons sur... sur cela, merci beaucoup Charles-Léon de Gentil pour votre participation à cette émission.
Merci de votre invitation.
Et je donne rendez-vous aux auditeurs de la Semaine de l'Art pour une prochaine émission. Au revoir.